Un groupe de rock est interrogé par un journaliste. Il leur pose des questions sur leur musique, sur leur style. Et puis à un moment donné, il pose cette question: quel est le chef de votre groupe? Alors là, réponse unanime: il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef, et on n'en veut pas. Très bien. Un silence se fait, et puis un des membres du groupe de rock dit: ah, mais c'est quand même moi qui écris les paroles. Et les autres répondent: ah oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. En fait, il n'y a pas de chef, mais parce qu'il n'y a pas de chef, l'un parmi les autres se désigne comme le chef. C'est la loi du plus fort, du plus doué. Alors, cela est un sketch des Inconnus que vous connaissez peut-être et qui illustre bien que dans tout groupe humain, quand on dit il ne faut pas de chef, eh bien, l'un ou l'autre prend cette place. Dieu, quand il a fait l'Église catholique, il a voulu une Église avec des chefs, avec une hiérarchie. Tout d'abord, la hiérarchie liée au temple n'existe plus, les grands prêtres, puisque ce temple, comme nous dit Jésus dans cet évangile, il n'en reste plus pierre sur pierre. Et c'est le cas encore 2000 ans après. Toutefois, la hiérarchie de l'Église, elle, ne passe pas. Malgré les persécutions dont le Seigneur nous a prévenus dans cet évangile, malgré aussi les scandales internes dans l'histoire de l'Église, 2000 ans encore, cette hiérarchie existe. Et je voudrais vous donner, dans un premier temps, deux raisons de son existence, dans un second temps, répondre à deux objections par rapport à l'existence de cette hiérarchie. La hiérarchie de l'Église, c'est le pape, les évêques, les prêtres, les diacres. La première raison pour laquelle Dieu a fait une hiérarchie dans son Église, c'est qu'il se veut de plus en plus proche de l'humanité. C'est ce qui se passe dans l'histoire. Avant Abraham, Dieu parle en direct à quelques personnes. Puis après, il choisit des prophètes dans le peuple juif et il parle à son peuple par des paroles humaines qui sont consignées dans la Bible, qui sont les paroles mêmes de Dieu. Cela prépare un événement exceptionnel. Dieu non seulement ne parle par des paroles humaines, mais il se fait lui-même homme, et c'est Jésus. Jésus se montre réellement Dieu par sa sagesse et ses miracles. Il est saint. Toutefois, pour accepter que cet homme est Dieu, il faut la lumière de la foi pour le percevoir. Le Seigneur Jésus, durant sa vie sur cette terre, va faire qu'il sera encore de plus en plus proche, non seulement d'un peuple, le peuple d'Israël, mais de la terre entière. Pour cela, il choisit 12 apôtres, et à la fin, il leur dit ceci. À la fin, il en reste 11, puisque Judas a fait défaut. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce que le Seigneur a fait d'abord pour Abraham, puis pour sa descendance, ce qu'il a fait en se faisant homme, en se faisant voir et toucher, il continue de le faire pour le monde entier en se rendant extrêmement proche par son action à travers les sacrements. Maintenant, dans les tabernacles du monde entier, grâce à la messe, le Seigneur est là. Toutefois, cette action de Dieu de proximité à travers la hiérarchie de l'Église pose quelques difficultés puisque, à la différence de Jésus, les membres de cette hiérarchie sont aussi pécheurs. Donc il faut aussi la foi, la lumière intérieure de Dieu pour comprendre ce mystère. L'autre raison pour laquelle Dieu veut avoir une hiérarchie dans l'Église, c'est une raison qui vient de notre humanité. Pour vivre sur cette terre, nous avons besoin des uns des autres, d'acheter des objets, de recevoir des services de santé par exemple. Eh bien, c'est la même chose dans la vie spirituelle. C'est ce que dit Jésus à Sainte Catherine de Sienne, je le cite. « Il était en mon pouvoir de doter les hommes de tout ce qui leur était nécessaire pour le corps et l'âme. Mais j'ai voulu qu'ils eussent besoin l'un de l'autre et qu'ils fussent mes ministres pour la distribution des grâces qu'ils ont reçues de moi. Le Seigneur veut qu'on ait besoin les uns des autres et qu'il y ait des ministres pour distribuer les grâces qu'il donne. Et c'est la raison de l'existence de cette hiérarchie dans l'Église. Toutefois, on peut se poser deux questions, je voudrais y répondre. La première question, c'est la sainteté des membres de cette hiérarchie. Alors bien sûr, nous avons de nombreux bons exemples. C'est le cas de saint Paul, nous venons de l'entendre dans cette seconde lecture. Il dit « Frères, vous savez bien ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. » Ainsi, le sacrement de l'ordre, qui fait membre de la hiérarchie, est accompagné de grâce pour une vie conforme à la volonté de Dieu. Toutefois, nous savons que pour que ça puisse se faire, il faut l'acceptation de ceux qui reçoivent ce sacrement de se convertir. Et le Seigneur Jésus avait prévu, bien sûr, qu'en confiant sa mission à des hommes, il serait parfois mal servi, mais ce n'est pas pour cela qu'il a voulu refuser cette mission. Alors, constater cela ne veut pas dire se résigner quand il y a des comportements graves, contraires à la charité, ou des paroles gravement contraires à la foi catholique. L'Église, dans son droit, s'il est appliqué, excommunie ces personnes. Toutefois, voici ce que nous dit saint Jean Chrysostome. Et c'est un peu le cœur de mon homélie. Quand tu verrais un prêtre indigne, n'attaque pas le sacerdoce, mais celui qui use mal de ce qui est beau. Je répète, quand tu verrais un prêtre indigne, n'attaque pas le sacerdoce, mais celui qui use mal de ce qui est beau. La deuxième question, la deuxième objection à la hiérarchie dans l'Église, c'est la culture actuelle de démocratie en Occident. Est-ce qu'il faudrait une Église démocratique sans hiérarchie? D'autant plus que ces questions se posent après les scandales récents des 60-50 dernières années. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on remarque que les hérésies prennent souvent appui sur des scandales dans l'Église. C'était le cas au Moyen-Âge, avec la vie pleine de richesses de certains prélats, de certains membres de la hiérarchie, et certains hérétiques ont dit « on va faire une autre église, une église de pauvres, et nous serons meilleurs que Jésus qui a fondé l'église catholique, on fait une autre église ». L'autre réponse a été celle de saint François et de saint Dominique, qui ont vécu une vie de pauvreté et qui ont attiré de nombreuses personnes à leur suite, qui a fait que l'église de l'intérieur s'est renouvelée. Mais ils n'ont jamais refusé l'Église fondée par le Christ, l'Église hiérarchique. Jésus nous dit dans cet évangile, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. » Si cette phrase de Jésus s'adresse à la fin des temps, eh bien, on peut la comprendre aussi pour toute l'histoire de l'Église, pour ceux qui veulent nous égarer, en disant, « Je suis mieux que Jésus. » Je vais faire quelque chose de bien mieux que lui, une meilleure église. Et il y a quelques jours, je lisais notamment un document qui disait ceci, je cite, « Il faut déconstruire le pouvoir pyramidal. Il faut enlever les obstacles structurels, notamment les structures hiérarchiques, qui favorisent des tendances autocratiques, une culture cléricale. » Nous avons là encore une volonté de faire une autre église que celle de Jésus, de vouloir être mieux que lui en voulant faire une église sans hiérarchie. Mais on peut remarquer, quel est ce fameux privilège de la hiérarchie? Est-ce que c'est d'avoir des palais? Non, plus maintenant. Est-ce que c'est de pouvoir avoir le droit de parler au micro, ce que je fais actuellement? Je vous assure que ça demande du travail et pas mal d'inquiétude durant la semaine de préparer l'homélie. Est-ce que c'est d'avoir de grandes richesses? Eh bien, ces richesses, c'est les richesses effectivement les plus précieuses. Quelles sont ces richesses? C'est les richesses de la foi. Et ces richesses de la foi ne sont pas faites pour être gardées, au contraire, par la hiérarchie, mais elles sont faites pour être données. Le privilège de la hiérarchie de l'Église, c'est de donner ce qui vient de Dieu, les sacrements, la foi, la vie éternelle. Et ça, ce n'est pas un privilège que nous devons jalouser, c'est un service qui est rendu. La hiérarchie de l'Église, je l'ai appelée au singulier. Mais en conclusion, je voudrais faire cette remarque très importante. En fait, il y a deux hiérarchies dans l'Église. Ce que nous dit saint Thomas d'Aquin et l'Église, en fait. Il y a la hiérarchie du pape, des évêques, des prêtres, des diacres. Et il y a aussi une deuxième hiérarchie, qui est la hiérarchie de la charité. Quelque chose qui est moins visible au premier abord, mais qui dépend du degré de charité en nos âmes. Nous savons bien sûr que celle qui en est à la tête, du moins celle qui est la créature qui a le mieux vécu cela, je veux dire, c'est la Vierge Marie. Et cette hiérarchie de la charité, c'est celle qui dure éternellement. C'est celle qui est au paradis, qui perdure. Celle de la hiérarchie de ce monde, pardon, de l'Église dans ce monde, est au service de la hiérarchie de la charité. Après la mort, nous n'avons plus besoin d'aller à la messe, de recevoir le pardon des péchés, puisque si nous sommes au paradis, nous ne ferons plus de péchés, nous verrons Dieu en direct, donc nous n'aurons plus besoin de ces services rendus. Toutefois, ce qui restera, nous dit saint Paul, c'est la charité. Et c'est ça qui fait la véritable grandeur. Alors prions pour que chaque membre de la hiérarchie catholique soit des bons serviteurs de notre croissance dans la charité. Amen.